Chapitre 14. Zed guida Kara et Nichi vers une zone de la forteresse que la magicienne n'avait pas souvent visitée mais dont elle connaissait les particularités. En quelques mots, il s'agissait d'un labyrinthe de couloirs et de salles défendus par plusieurs strates de champs de force. Ici, les globes lumineux posés sur des supports s'éclairaient d'eux-mêmes sur le passage des visiteurs et s'éteignaient lorsqu'ils s'éloignaient. Pour Nichi, la forteresse n'était qu'un endroit sombre et sinistre. Et immense, bien entendu. Au-delà de ce sentiment viscéral, elle savait que ce lieu était d'une extraordinaire complexité. Quel problème pouvait inquiéter à ce point un homme comme Zed? En chemin, Rika, Tom et Friedrich sortirent d'une salle de lecture et se joignirent à la petite colonne. Grand, musclé et blond, Tom appartenait à une garde d'élite entièrement dévouée au seigneur Rall. Le vieil orfèvre Friedrich, récemment frappé par un deuil cruel, était devenu un des gardiens de la forteresse. Nichi supposa que les trois alliés de Zed avaient attendu dans cette salle qu'elle se remette de sa rencontre avec Six. Pour que le premier sorcier leur ait demandé de ne pas trop s'éloigner, l'hypothèse la plus probable, la situation devait être grave. « Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux que la nuit dernière !» dit Rika, tandis que le petit groupe traversait une salle cossue où étaient exposés des tableaux de toutes les tailles. Avec leurs magnifiques cadres dorés à leur fin, ces peintures couvraient littéralement les murs.
« Merci, je suis en pleine forme, c'est vrai. »
En marchant, la magicienne nota que tous les tableaux représentaient des personnages. Si le style variait beaucoup, le sujet restait immuable, un homme ou une femme au premier plan, et au second, un endroit marquant de la forteresse, qu'il s'agisse d'une salle de bal, d'une bibliothèque ou d'une cour de jardin. Ces milliers de gens désormais retournés au néant avaient tous vécu ici à l'époque où la forteresse grouillait de vie. Par contraste, elle en semblait encore plus déserte aujourd'hui.
« Cette chemise de nuit était rose à l'origine, » dit Rika en coulant un regard de biais à Nichi.
« Oui, mais je déteste cette couleur. » La mort de Sith ne put cacher sa déception.
« Vraiment, quand nous vous l'avons mise, Kara et moi, j'ai trouvé que ça vous rendait encore plus jolie. »
D'abord déconcerté par une telle remarque, dans la bouche d'une femme en rouge, Nichi comprit soudain le sens de cette affaire de chemise de nuit rose. Comme toutes les morts de Sith, Rika tentait de revenir des confins de la folie. Pour cela, elle essayait de se débarrasser de la carapace émotionnelle dont on l'avait revêtue de force dès son enfance. Dans sa vie, tout avait été laid et violent. Au milieu de cet enfer, la chemise de nuit rose incarnait l'innocence et la beauté, soit le genre de faiblesse strictement interdite aux tortionnaires appointés du précédent seigneur Rall. En se réjouissant de voir Nichi ainsi vêtu, Rika exerçait tout simplement son droit naturel au rêve et à la délicatesse. Et à l'enfance aussi, car elle aurait tout aussi bien pu se réjouir d'avoir joliment habillé une poupée.
« Merci du compliment et de l'attention, » dit Nichi.
Après une courte réflexion, elle développa son point de vue.
« La chemise de nuit est très belle, mais la couleur ne me convient pas, voilà tout. Quand je me serai rhabillée, je rendrai sa teinte à ce vêtement et je te l'offrirai. »
Rika se mit aussitôt sur la défensive.
« Moi, porter cette... je ne sais pas trop si... Tu seras magnifique, crois-moi. Le rose ira parfaitement à ton teint de peau.
Vous en êtes sûre ?
Certaine. Et te l'offrir me comblera de joie.
Eh bien, j'y réfléchirai. »
Une fois qu'elle sera propre, je m'assurerai que la nuance de rose corresponde à ton teint.
« Alors, merci, »
fit Rika avec un petit sourire. Nichi regretta que Richard ne soit pas là pour voir les lèvres de la jeune femme s'étirer très légèrement, un exploit fantastique pour une mort de Sith formée au rictus mauvais depuis son plus jeune âge. Si timide qu'elle fût, le sourire de Rika témoignait d'une extraordinaire évolution. Petit pas après petit pas, l'ancienne tortionnaire revenait dans le monde de la vie et des petites joies toutes simples. Richard s'en serait réjoui parce qu'il avait parié que ce cheminement était possible. Contre l'avis de tous, il avait donné une seconde chance à... L'ancienne maîtresse de la mort faillit éclater de rire. S'il avait été là, Richard aurait été touché par l'évolution de Rika, ça ne faisait pas de doute. Mais n'aurait-il pas bu également du petit lait en voyant une sœur de l'obscurité repentie vanter la beauté de la vie à une mort de Sith en cours de réhabilitation? Pour la première fois, Nietzsche imagina ce qu'avait dû éprouver son ami lorsqu'il avait enfin réussi à l'arracher aux ténèbres. Vu à travers les yeux du sourcier, la vie était à la fois joyeuse et poignante, car sa fragilité faisait en partie sa valeur. Pour lui, tout était toujours possible et il n'existait pas de situation désespérée. Comme il lui manquait. En cet instant, elle aurait donné n'importe quoi pour le voir sourire, sa façon d'affirmer la pérennité de la vie sur la mort et de l'espoir sur la résignation. Il lui manquait tellement qu'elle craignit d'éclater en sanglots.
« Vous allez bien ?» demanda Rika. « La voyante ne vous a rien fait de grave, j'espère. Vous semblez, eh bien, je ne sais pas, moi, un peu désorienté. »
Nietzsche eut un haussement d'épaules nonchalant et changea brusquement de sujet.
« Tu as retrouvé Rachel ?»
Alors que les deux femmes sortaient de la salle au portrait, la mort de Sid se rembrunit un peu.
« Non. Ce matin, Chase a découvert des empreintes à l'extérieur de la forteresse. Il s'est lancé sur cette piste, certain que c'était celle de l'enfant. »
Pour Rika, Rachel était un autre lien avec les joies de la vie. Même si elle ne l'aurait avoué pour rien au monde, elle adorait la fillette et se faisait un sang d'encre pour elle.
« Je me demande quelle mouche a piqué cet enfant !»
disait de par-dessus son épaule. Il s'engagea dans un couloir latéral assez étroit.
« Fugger ne lui ressemble pas.
C'est peut-être en rapport avec la venue de Sis, »
avança Nietzsche.
« La voyante a peut-être enlevé Rachel. »«
Chase a trouvé les empreintes d'une seule personne, »
intervint Rika.
« Pour lui, ce sont celles de Rachel et Sis n'était pas avec elle. »
« Vous pensez à la même chose que moi ?»
demanda Kara à Nietzsche.
La démonstration de Richard au sujet des pistes?
Ce jour-là, il a insisté sur un point. La magie peut dissimuler des traces. Il ne se trompait pas,
confirma Z.
Mais Rachel a disparu avant l'intrusion de Sis. Et de toute façon, si la voyante l'avait enlevée, elle aurait dissimulé leurs empreintes à elles deux, sinon à quoi bon?
Nietzsche s'arrêta sans crier gare et se retourna vers l'arche qu'il venait de dépasser. Deux colonnes dorées à leur fin flanquaient l'étroite ouverture surmontée par un linteau gravé de runes.
N'y avait-il pas un champ de force à cet endroit?
Le regard noir du premier sorcier répondit amplement à la question. Alors qu'ils repartaient au pas de course, tous accélérèrent pour ne pas se laisser distancer. Au bout du couloir, il s'engagea dans un court passage qui donnait sur un escalier en colimaçon. Comparé à certains escaliers d'honneur du complexe, celui-là était ridiculement petit. À l'aune de critères plus normaux, il était incroyablement spacieux et confortable. Sur ces marches, deux personnes pouvaient avancer de front sans se heurter au mur. Et la déclivité, pour une fois, avait toute la progressivité souhaitable. Cette configuration, a priori agréable, était si décourageante que Nietzsche dut se concentrer pour ne pas trébucher. Au fil de la descente, elle s'aperçut que les marches étaient disposées en spirale autour d'une vaste muraille rocheuse veinée d'un minerai scintillant qu'elle fut incapable d'identifier. Au pied de l'escalier, un court tunnel donnait sur la faille, au cœur du complexe, qui séparait les salles protégées par un champ de force de la paroi rocheuse de la montagne. Le petit groupe n'était pas très loin de l'endroit où Sis avait attaqué par surprise Kara, Nietzsche et Zed. L'ancienne maîtresse de la mort s'étonna de capter autant de quiétude en ces lieux après l'irruption de la voyante. Selon ce qu'elle savait des protections magiques, une telle invasion n'aurait pas dû être possible. Les sorciers qui avaient bâti le complexe et créé ses défenses avaient certainement prévu de repousser toutes les formes de magie étrangère, y compris celle d'une voyante.
« Voilà !» annonça Zed en s'immobilisant. « C'est apparu ici !»
Il désigna la muraille composée de grands blocs de pierre qui faisaient face à la paroi naturelle de la montagne. Nietzsche repéra d'étranges traces sombres, des coulures, aurait-on dit, qui ne lui semblèrent pas naturelles. Il y en avait partout, comme si un fluide sombre sourdait de la pierre.
« De quoi s'agit-il, Zed ?»
Le vieil homme passa un index sur une trace encore humide.
« C'est du sang. »«
Du sang ?
C'est ça, oui. »«
Du vrai sang ?
Aussi vrai que possible. »«
Du sang animal ?»
demanda Nietzsche en repensant aux chauves-souris, à un véritable nuage, dérangé par Sis la nuit précédente.
« Non, humain !»
lâcha Zed. La magicienne en resta muette de surprise. À tout hasard, elle interrogea Kara du regard.
« Oui, nous en sommes certains, »
confirma la mort de Sith.
si tu le dis. Mais pourquoi du sang humain sourdrait-il de ce mur ?
Le phénomène ne se limite pas à ce mur,
précisa Zed.
On le retrouve dans toute la forteresse, un peu partout et sans logique apparente.
Nietzsche examina les traînées de sang, à une saine distance car elle n'avait aucune intention d'y toucher.
Le mot « problème » était justifié,
finit-elle par dire.
Mais « énigme » n'aurait pas été mal non plus, sauf si vous avez une idée de ce que ça veut dire, Zed. Si la forteresse saigne, c'est parce qu'elle agonise.
Elle agonise ? Que voulez-vous dire ?
Le champ de force dont tu as remarqué la disparition défendait cet endroit depuis des milliers d'années. Les défenses magiques disparaissent les unes après les autres. Ici, tout se délite. Malgré ses pouvoirs, Sis n'aurait jamais dû réussir à entrer sans que des alarmes se déclenchent. Mais les champs de force ont failli à leur mission, et ça a manqué de nous coûter la vie. Si la forteresse n'était pas gravement malade, la voyante n'aurait jamais pu s'introduire au cœur même de mon fief. Cette zone est sécurisée, et elle devrait être inaccessible pour les intrus, même en cas de défaillance des alarmes. Bref, c'est une catastrophe.
Le vieil homme désigna le mur ensanglanté.
À cause de ses blessures, la forteresse n'est plus capable de repousser une invasion. Désormais, le complexe est trop affaibli pour continuer à se défendre. À ma connaissance, une telle chose ne s'était jamais produite. Des intrus ont réussi à s'infiltrer dans le complexe, mais c'était grâce à leur ruse, à leur pouvoir ou à l'action de complices installés sur les lieux. Sis n'a même pas eu à forcer son talent pour se jouer des défenses magiques.
« Les carillons ?»
dit Nietzsche, qui venait de comprendre.
« Oui, »
confirma Zed.
« Richard avait raison.
Pouvons-nous faire quelque chose ?»«
Trouver Richard et l'aider à ouvrir la bonne boîte d'Ordaine. Le sort d'oubli est lui aussi contaminé par les carillons. La magie est en danger de mort. » Avec un peu de chance, le pouvoir d'Ordaine débarrassera le monde de la chaîne de flammes et de l'influence dévastatrice des carillons.
Zed, les boîtes sont conçues pour neutraliser le sort d'oubli, rien de plus. Elles ne s'attaqueront pas aux carillons, ni à leur influence sur notre univers, ça ne fonctionne pas comme ça.
Tu as toi-même mentionné que la magie ordénique, comme toutes les magies, pouvait être utilisée à des fins très diverses. « Richard doit remettre les boîtes dans le jeu pour vaincre la chaîne de flammes et pour nous libérer des carillons. »
Nietzsche doutait que ce soit possible. Et si ça l'était, elle craignait que les risques se révèlent bien trop élevés. Mais ce n'était ni le moment ni le lieu pour en débattre. Pour l'heure, Richard manquait à l'appel et c'était le premier problème à régler. Mais pas le seul, loin de là. Histoire de ne pas inquiéter Zed, Nietzsche ne lui avait pas révélé tout ce qu'elle avait appris sur les obstacles qui se dresseraient sur le chemin du sourcier. Mieux valait se concentrer sur les urgences, bien sûr, mais au bout du compte, il faudrait bien relever le défi.
« En attendant, » dit le vieux sorcier, « nous devons évacuer la forteresse. »
Nietzsche n'en crut pas ses oreilles.
« Bien au contraire, il faut y rester pour la défendre.
Zed, il y a ici des trésors que nous ne pouvons pas laisser entre les mains de Jagang et des sœurs de l'obscurité. » Sans parler du patrimoine magique, ou de ce qu'il en reste, il y a les extraordinaires bibliothèques.
C'est pour ça que nous devons partir, justement.
Si elle n'est plus habitée, je peux faire en sorte que la forteresse soit inexpugnable. Ce sort n'a jamais été activé, d'après ce que je sais, mais il faut bien un début à tout.
Si le complexe est affaibli au point que vous dites, comment espérez-vous lancer un sort pareil ?
Les grimoires qui traitent de la forteresse... Mentionne les murs qui saignent. C'est un avertissement, la preuve que les choses vont vraiment très mal. Selon mes sources, ça ne s'était jamais produit. Quand je suis devenu premier sorcier, j'ai dû étudier toutes ces choses. Les ouvrages décrivent les procédures d'urgence à appliquer si le cas se produit. Il existe une façon de verrouiller la forteresse qui est encore à notre portée. Le pouvoir requis, très élevé, est entreposé dans le complexe.
Et alors ?
Il m'a fallu presque toute la journée pour le trouver.
De quoi s'agit-il ?
Zed désigna les portes de la salle où se trouvait la boîte d'Ordaine jusqu'à ce que Sis la vole.
Un coffret en os. Il nous attend. Il est à peu près de la taille d'une boîte d'ordaine. Ne me demande pas de quel genre d'os il s'agit, parce que je n'en sais rien. Il y a des runes gravées dessus, mais je ne suis pas parvenu à les déchiffrer. Ce coffret contient un sortilège modelé censé être lié à la nature même de la forteresse. C'est une invention des sorciers qui ont imaginé les défenses du complexe. Une sorte d'échantillon mis de côté. Comme un boulanger qui garderait un peu de pâte afin d'être sûr de toujours pouvoir faire le même pain. Ce sort contient certains éléments de la magie originelle de la forteresse. Une prouesse stupéfiante quand on y réfléchit. Une fois activé, combien de temps ce sort résistera-t-il à la souillure des carillons?
Zed eut une moue désabusée.
Je n'en sais rien. D'après mes lectures et quelques essais pratiques, nous devrions avoir pas mal de temps devant nous avant la défaillance, mais c'est impossible à chiffrer. Il faut essayer et espérer, voilà tout.
Et si le sortilège était déjà affecté par les carillons? Demanda Friedrich. La forteresse est touchée, et cette magie est une part de son pouvoir originel. Comment être sûr qu'elle n'est pas corrompue?
Même s'il n'avait pas le don, Friedrich en connaissait long sur la magie. Rien de bien étonnant quand on avait vécu la plus grande partie de sa vie avec une magicienne.
J'ai tenté de réaliser des toiles de vérification sur les alarmes et les défenses défaillantes, dit Zed. La souillure interdit de simplement exécuter le protocole. En revanche, j'ai pu en conduire une sur le sortilège enfermé dans le coffret en os, et le résultat est positif.
Très bien, intervint Kara. Mais qu'est-ce qui nous empêche de rester ici après l'activation du sort?
Le danger. Cette procédure d'urgence n'a jamais été utilisée, et je ne sais rien sur son fonctionnement. Son principal effet, d'après les grimoires, est d'empêcher les intrusions. Un sort de feu ou de lumière, je n'ai pas très bien saisi, se chargera d'éliminer les personnes indésirables. Hélas, il ne semble pas savoir faire la différence entre les amis et les ennemis. S'il frappait pendant que nous sommes ici, vous imaginez la catastrophe. Cela dit, il faut l'activer au plus vite. Après tout, il y a peut-être déjà des intrus dans le complexe, comment savoir?
En ce moment même? Demanda Kara.
Oui. Puisque les défenses et les alarmes ne sont plus fiables, tout est possible, y compris la présence de gens mal intentionnés. Si, c'est peut-être même toujours là. Chase n'a relevé aucune trace prouvant qu'elle est partie. Des sœurs de l'obscurité ont également pu s'introduire dans des secteurs sensibles. Nous n'avons plus aucun moyen d'être prévenus. Mais il y a plus grave. La Slif risque de servir de voie d'invasion. Seul Richard peut la rendormir, et elle n'a pas la possibilité de refuser ses services aux pratiquants de la magie qui savent comment s'adresser à elle. Jagang peut nous envoyer des sœurs par ce moyen. Nous ne sommes pas assez nombreux pour surveiller en permanence la Slif, et à part Nietzsche et moi, personne ne saurait se défendre face à des sœurs de l'obscurité. Pour résumer, la forteresse est ouverte aux quatre vents. Le sort d'interdiction réglera ce problème, mais il risque de tuer tout le monde, y compris nous. Donc il faut nous en aller avant de l'activer.
Et comment reviendrons-nous? Demanda Kara.
Je devrais neutraliser le sortilège. Je connais la séquence requise pour le désactiver. Mais ensuite, il ne fonctionnera plus jamais. Du coup, c'est une décision qu'il faudra prendre en cas d'extrême urgence, ou après la victoire des boîtes d'ordaine sur les carillons.
Eh bien, avoua Nietzsche, je ne vois rien à objecter à ce plan. Pour l'heure, ça semble la seule façon de préserver la forteresse.
De toute façon, ajouta Zed, nous n'aurions pas pu rester ici.
C'est exact, approuva la magicienne.
Elle pensait déjà aux multiples endroits où elle devrait aller et à tout ce qu'elle aurait à faire.
Selon moi, dit Zed, la priorité est de rendre son pouvoir à Richard. Être de nouveau lié à son don l'aidera sans aucun doute. Nous soupçonnons qu'un sort dessiné dans les grottes sacrées de Tamarang est responsable de l'état du sorcier. Si personne n'a de meilleure idée, je propose que nous allions à Tamarang pour tenter de régler le problème.
Les deux Mordecites acquiescèrent.
Si ça peut aider le seigneur Hall,
déclara Kara.
Allons-y.
Je suis d'accord, dit Tom.
Je vous ralentirai,
intervint Friedrich.
Vous savez, l'âge est impitoyable. Ne devrais-je pas rester dans les environs au cas où Richard se remontrerait? Il faudra que quelqu'un lui raconte ce qui s'est passé. De plus, je pourrais veiller de l'extérieur sur la forteresse.
C'est une idée judicieuse,
concéda Z.
Moi, je préfère aller d'abord au palais du peuple,
dit Nietzsche.
Pourquoi?
Demanda le vieux sorcier.
Je peux voyager dans la Slif. Après un passage par le palais du peuple, je vous retrouverai à Tamarang. Grâce à l'économie de temps, j'aurai l'occasion de vérifier certaines choses au palais.
Lesquelles, par exemple?
Depuis que Richard a disparu, en étant coupé de son pouvoir, Nathan est le seigneur Ral en activité. Le lien dont il est le dépositaire est notre seule défense contre les pouvoirs de celui qui marche dans les rêves. J'aimerais voir comment notre prophète s'en sort.
Z approuva du chef.
Le palais du peuple est également doté de défenses magiques. Il faut informer Nathan et Anna du danger que représentent les carillons. Ainsi, ils ne seront pas pris par surprise. Mais avant tout, nous devons récupérer la boîte d'Orden. Sis vient de l'ancien monde, où Anna et Nathan ont vécu des siècles et des siècles. Ils nous ont dit de ne rien savoir de la voyante, mais quelque chose leur est peut-être revenu. En y réfléchissant, Nathan a pu se souvenir de quelqu'un qui connaît notre ennemi. Pour l'heure, elle est un mystère pour nous et ça ne peut pas durer. J'ignore par où commencer des recherches sur elle. Interroger nos amis est un point de départ qui en vaut un autre.
Bien raisonné,
admit Z.
Mais si tu découvres quelque chose, viens quand même à Tamarang. Ne te mets pas en chasse de six sans nous, c'est bien compris? Nous aurons sans doute besoin de toi pour cette affaire de dessin magique, et contre la voyante, tu ne t'en sortiras pas sans mon aide. Cette femme est dangereuse. Tu as payé pour le savoir. N'envisage même pas d'aller seul lui subtiliser la boîte. Suis-je assez clair?
Parfaitement, répondit Nietzsche.
Et la Slif?
Quand je l'aurai utilisée, quelqu'un pourra-t-il s'en servir pour entrer ici?
Le sort se concentre particulièrement sur les issues. Et la Slif en est une, en quelque sorte. Dès que tu seras parti et que nous aurons évacué, j'activerai le sortilège.
Je viens avec vous,
dit Kara à Nietzsche. Ce n'était pas une requête.
Dans ce cas, j'accompagnerai Z,
annonça Rika.
Il a besoin qu'une mort de Sith veille sur lui.
Le vieil homme foudroya la femme en rouge du regard, mais il s'abstint de tout commentaire.
Très bien,
conclut Kara.
C'est décidé.
Les deux morts de Sith prenaient les choses en main et s'engageaient à fond. Le pari de Richard n'était donc pas si fou que ça.
Allons faire nos bagages, dit Zed. Le jour se lèvera bientôt.
Nietzsche prit Rika par le bras et la tira à l'écart.
Dès que je serai changé, je m'occuperai de la chemise de nuit afin que tu puisses l'emporter.
Merci beaucoup.
À la voir sourire, Nietzsche songea que la jeune femme avait vraiment très envie de posséder un joli vêtement sans rapport avec les sinistres tenues en vigueur dans sa profession. Très inquiète à l'idée de voyager dans la Slif, l'ancienne maîtresse de la mort préféra penser à ses problèmes de teinture, pas très compliqués en réalité. Car cette fois, si quelque chose tournait mal dans la créature de vif argent, Richard ne serait pas là pour l'aider.